Podcast, la première. Un jour dans l'histoire, Laurent Dehaussée.
Nous sommes le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, après 46 ans de règne. Charlemagne, roi des Francs, empereur à la barbe fleurie, nous quitte. La barbe fleurie, voilà bien l'une des premières contre-vérités véhiculées à travers les âges à propos de celui qui en réalité portait la moustache. Il y avait une voix de fossé, une voix d'ailleurs qui contrastait avec sa haute stature. Il mesurait près d'1m90, le sommet de la tête arrondie, de grands yeux vifs, le nez un peu plus long que la moyenne. C'est en tous les cas ainsi que nous le décrit son biographe fin lettré et homme de confiance, le dénommé Eginhard. Alors Charlemagne, inventeur de l'école, illettré, père de l'Europe, né à Herstal, info ou intox.
Ces bâtons m'ennuient. Mets-moi des minuscules. Des minuscules. J'ai toujours dit, c'est plus rapide, ça prend moins de place. Que tout le monde s'y mette. On appellera l'écriture Caroline.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, un premier extrait d'un docu-fiction d'Arte, Le Temps de Charlemagne, avec nous pour évoquer la question, Julien Maquet. Bonjour Julien Maquet.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire et directeur de l'Archéoforum de Liège. Alors avant de nous plonger dans les représentations liées à Charlemagne, les idées reçues qui sont finalement souvent un condensé de légendes, de mythes, on va poser quand même les jalons d'une réalité historique. On va commencer par le béaba, date de naissance, le 28 janvier 742. Vrai ou faux?
Non, on ne connaît pas la date précise à laquelle Charlemagne est né. Il y a une controverse entre les historiens. Le faisant naître en 742, effectivement, et se référant simplement à l'âge qui est donné par son biographe que vous avez évoqué, ouais. Eginhard, il serait mort à 72 ans. Mais rien dans les textes n'atteste que c'est bien cette année. D'autres parlent plutôt de l'année 747 ou 748. Mais les sources ne permettent pas de trancher.
Alors Charlemagne, roi des Francs, empereur et empereur, c'est lui qui va donner son nom à la dynastie des Carolingiens. D'où vient-il? De quel arbre généalogique?
En réalité, effectivement, il vient d'une famille, les Pipinides, ou les Pépins, ouais. c'est le nom de son père en réalité, qui n'était pas roi à l'origine, mais des espèces de premiers ministres des rois mérovingiens. Ils étaient maires du palais, et finalement, cette dynastie va s'imposer en supplantant la dynastie en place, la dynastie mérovingienne.
En la supplantant par des moyens pas très jolis, quoi.
Hein. Non, on est dans un contexte politique, on est au Moyen-Âge, effectivement, on va tonsurer le roi, lui enlever sa crinière, ouais. C'était un symbole d'abaissement de son autorité, et Pépin va se faire reconnaître son autorité par le pape. Et là, et même en 754, le pape viendra à Saint-Denis pour loindre, donc le revêtir de l'onction.
Pépin le Bref, donc le père de Charlemagne, fils de Berthe au grand pied, Bertrand de Laon. Alors, il y a, en 747, il y a un frère également dont on va se débarrasser aussi.
Oui, tout à fait. Charlemagne, lorsque le Pépin III, dit le Bref, meurt en 768, Charlemagne n'est pas seul. Il a un frère, Carloman, qui meurt assez vite. Il meurt en 771, mais il a des héritiers. Et Charlemagne prend un soin tout particulier à écarter ses héritiers potentiels, ses deux neveux, qui trouveront refuge en Lombardie.
Un frère qui disparaît de façon assez précoce. Alors, est-ce que Charlemagne est dans le coup ou pas? On ne le sait pas très bien.
De nouveau, c'est un problème de source contemporaine et la réécriture qui a été refaite évidemment des événements par Eginhard entre autres, ouais. Et d'autres sources historiques font qu'une partie de la réalité est masquée, mais il y a quand même des discordances dans certaines sources qui permettent d'avoir des indices de choses finalement qu'on a cherché à cacher.
C'est le travail de l'historien, ça, Julien Maquet, de se dire qu'au fond l'histoire qui se transmet n'est peut-être pas l'histoire d'une réalité.
Non, d'autant plus qu'ici ici, on est face à une figure dont l'image a été utilisée très vite, donc dès après sa mort avec Eginhard, sous son successeur, Louis le Pieux. Mais la figure de Charlemagne va être reprise aussi au Moyen-Âge par Frédéric Barberousse, entre autres. Il sera même canonisé au XIIe siècle. Et puis par la suite, évidemment, au XIXe siècle, pour légitimer l'existence de l'État belge. Et encore aujourd'hui, où on fait actuellement Charlemagne le père de l'Europe. Ouais. Or, je ne pense pas qu'il ait envisagé un jour la construction européenne.
On y reviendra tout à l'heure. Effectivement, le XIXe siècle est important dans la construction de ces images, de ces mythes autour de Charlemagne.
Jusqu'à 14h, un jour dans l'histoire, sur la première.
Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Évidemment, les chansons populaires reprennent les légendes de Sacré Charlemagne. C'était France Gall, je crois que c'est une chanson de 1965, dans ces années-là. Nous sommes avec Julien Maquet, docteur en histoire, directeur de l'Archéoforum de Liège. Alors, autre idée reçue, Julien Maquet, c'est le lieu de naissance de Charleroi. Herstal est très très fier de pouvoir annoncer, il y a des plaques commémoratives à Herstal comme étant la ville de naissance de Charlemagne.
De nouveau, c'est le même problème que la date de naissance, on ne sait pas. Si on ne sait pas quand il est né, on ne sait pas non plus où il est né précisément. Ce qui est certain, c'est que la famille de Charlemagne, les Pépins, sont richement possessionnés en terre dans nos régions. Et la famille est probablement originaire de nos régions. C'est la seule certitude que l'on ait. Mais en fonction de la date, 742 ou 747, 748, il est plutôt né dans nos régions en 742, il y a beaucoup de chance, et plutôt dans la région de Paris, Île-de-France, en 743. Mais la question n'est pas tranchée, ouais, puisque de nouveau, les sources ne permettent pas de dire où il est né précisément. Mais Herstal était un parler carolingien, ça, ouais, c'est certain, où Charlemagne a séjourné fréquemment.
Et 742, ça pourrait, si Charlemagne est né en 742, ce sont quoi? C'est une question de bataille qui ferait que Pépin le Bref aurait séjourné dans la région.
Voilà, en fonction de l'état, de la situation politique, pas entrer dans le détail, ouais, mais effectivement, le pouvoir de Charlemagne et de Pépin, ils ne sont pas encore, nous sommes en 742, donc quand Charlemagne naît, que ce soit en 42 ou en 47, son père n'est pas encore roi, il est toujours maire du palais et il faut se battre pour s'imposer sur le plan politique et donc se battre, ce qui suppose bien qu'il y a des ennemis derrière et donc il y a des luttes de clans.
Il faut rappeler aussi que c'était des cours itinérantes à l'époque.
Oui, oui, tout à fait. Il ne faut pas entendre, même si à la fin de sa vie il se fixe à Aix-la-Chapelle, c'est un personnage âgé, il souffre, semble-t-il, soit d'arthrose, soit de goutte. Les eaux d'Aix-la-Chapelle lui font du bien, mais pour pouvoir exercer son pouvoir, il doit se déplacer, il doit se rendre auprès de là où se passent les problèmes, là où se passent les événements, et c'est une manière aussi de marquer sa présence et son autorité.
Donc faire d'Aix-la-Chapelle la capitale du royaume de Charlemagne, c'est une erreur.
En tous les cas, c'est un anachronisme. Il est certain que le pouvoir, la cour s'est stabilisée par le fait que l'empereur ne se déplaçait plus. Mais Louis le Pieux aurait une préférence, par exemple, pour Metz.
Alors, côté vie privée, Charlemagne, dit-on, choquait son clergé par une certaine liberté sexuelle. Alors, info ou intox?
Non, ça, c'est un fait. Mais de nouveau, c'est une reconstruction qui a été faite, notamment avec la réforme grégorienne au Xe, XIe siècle, où un mari devait avoir une femme. Mais dans cette période-là, avoir une femme officielle et un ensemble de concubines plus ou moins discrètes n'était pas véritablement un problème. Mais on est aussi dans une période de réforme initiée par Charlemagne et le clergé essaye de réformer les mœurs, y compris celles du roi.
Alors il a eu quoi? Il s'est marié 4 ou 5 fois, il a répudié 2 femmes.
Voilà, tout à fait, 4 ou 5 fois. Il a eu plusieurs concubines connues. Il a eu 3 fils qui ont véritablement compté, tous issus de la même femme. C'est Hildegarde qu'il appréciait tout particulièrement.
12 enfants au total légitimés.
Voilà, à peu près, qui beaucoup n'ont pas vécu. Par exemple, Louis le Pieux, son héritier, avait un frère jumeau qui est mort, Lothaire, à 2 ans.
Alors, c'est aussi sa liberté dans ses mœurs. C'est aussi quoi, une façon de mener une politique? Ce sont des unions, j'imagine, qui ont un sens politique.
Effectivement, ce qui est important durant cette période-là, ce sont les relations interpersonnelles. Et quand on parle du peuple, le roi et le peuple, c'est le peuple au sens très restreint du terme. Ce sont les aristocrates, ouais. Ce sont les grands lignages qui sont richement possessionnés, donc qui peuvent apporter aide à la monarchie. Et il est important de pouvoir développer ce réseau de fidélité à travers l'Empire, bien sûr, enfin ce qui deviendra l'Empire.
Et notamment, les relations avec les Lombards étaient importantes à l'époque. Il épouse une Lombarde.
Et à l'origine, il épouse une Lombarde, puisque la politique, dans un premier temps, influencée par sa mère Berthe, est de se rapprocher des Lombards, mais Lombards qui menacent la papauté. Et donc, à ce moment-là, Charlemagne va s'éloigner des Lombards, il va même conquérir le royaume, et il va s'instituer en protecteur de la papauté, parce que finalement, il occupe le terrain que l'empereur de Byzance est en train de retirer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est l'origine des États pontificaux qui vont survivre jusqu'au 19e siècle, et voire même à l'État du Vatican ouais. actuel, puisque c'est une survivance, même s'il y a une interruption au 19e siècle.
Alors on lisait, il y a eu une douzaine d'enfants légitimés, il aimait, paraît-il, beaucoup ses filles,
oui.
et avait une politique là aussi assez particulière pour l'époque, j'imagine, que de ne pas obliger ses filles à se marier.
Non, il avait d'excellents rapports avec ses filles. Il y en a même une qui a eu un amant qui était très proche de l'empereur, mais qui n'a véritablement jamais quitté la cour. Il avait aussi une sœur, Gisèle, qui a joué un rôle non négligeable, puisqu'elle était abbesse de Chelles, près de Paris, dans la Renaissance, entre guillemets, carolingienne.
Son fils, son successeur, Louis le Pieux, sera plus conservateur, plus puritain, entre guillemets.
Non, mais de nouveau, il y a une évolution de la conception du pouvoir. La Renaissance carolingienne commence à produire ses effets. Les clercs sont des francs, ils ne sont plus des clercs qui viennent des pays anglo-saxons ou d'ailleurs, ce sont des et qui vont influencer aussi la vision politique que Louis le Pieux va développer et qui est différente de son père, même si elle s'inscrit dans la lignée de Charlemagne.
À lire et à écrire au plus grand nombre de mes sujets. Mes rivaux byzantins et arabes savent lire, écrire, ont une vie intellectuelle, nous non. Depuis des siècles, nous pataugeons, nous végétons dans la paresse et la crasse. Attirer à la cour les meilleurs lettrés de l'Occident ne suffit pas, ils ne sont pas assez nombreux. Je dois donner à l'Empire des gens capables de s'en occuper. Il faut apprendre ou disparaître.
Alors Julien Macquart, vous vous intéressez, vous, beaucoup aux manuels scolaires, aux images véhiculées par les manuels scolaires. Et dans différents manuels, on représente souvent Charlemagne qui siège à l'assemblée des grands du royaume, la diète. L'empereur légifère, il y a à ses côtés deux secrétaires, dont le fameux Eginard dont on a parlé, qui prennent des notes. Et là, déjà, c'est une erreur.
C'est anachronique de plusieurs manières. Les deux secrétaires, Alcuin était beaucoup plus âgé que Eginard. D'ailleurs, Alcuin meurt en 804, et Eginard ne meurt que bien plus tard, aux environs, je n'ai plus la date en tête, de 840. Et Eginard a été l'élève d'Alcuin. Donc il y a déjà quelque chose ouais. d'anormal dans cette représentation. Et puis on représente effectivement ces deux secrétaires en train de prendre note de la législation dictée par l'empereur. Ben, c'est un anachronisme. Ce qui comptait, c'était la parole du roi. L'acte écrit, l'importance de la loi écrite vient avec la Révolution et l'importance de publier donc les écrits, c'est moins la parole que l'écrit. Durant cette période-là, ce n'est pas du tout le cas.
Mais on prenait note, pourquoi ? Pour comme un mémoire, au fond ?
Voilà, tout à fait. L'objectif, c'était simplement de retenir les grands thèmes qui avaient été délibérés, qui avaient été ordonnés par le souverain. Et lorsqu'il envoyait ses missies à travers l'ensemble du royaume et de l'Empire, c'était pour se rappeler ce qu'il fallait dire à la population.
Ouais. Alors, vous évoquiez la Révolution française. Donc, et puis, au-delà, c'est l'importance, après la Révolution, donc du XIXe siècle, qui relie cette partie de... Cette partie de l'histoire.
Voilà, et c'est tout l'intérêt des manuels scolaires, parce qu'à travers ces représentations de Charlemagne, on voit le message qui est véhiculé, comme celui qu'on vient d'évoquer pour la législation, mais on fait aussi de Charlemagne soit un chantre de l'évangélisation, soit également quelqu'un qui, par exemple, qui a inventé l'école. Ouais, l'école existe dans l'Antiquité.
Mais il a joué un rôle important quand même dans le domaine éducatif.
Voilà, mais la perspective de nouveau qui était poursuivie n'était pas du tout, si c'était de donner accès à l'écriture, la sainte écriture, à la parole de Dieu, parce que l'objectif de Charlemagne, c'était de conduire le peuple chrétien vers le salut. Mmh. Et pour y arriver, il fallait pouvoir lire correctement les préceptes et la liturgie, tout simplement.
Avec la volonté de faire, comme on dirait aujourd'hui, une école pour tous, c'est-à-dire où il y a une mixité sociale.
L'objectif était de toucher toute la population, effectivement, puisqu'il prescrit des écoles, y compris dans les paroisses, dans les monastères, dans les églises épiscopales, mais de nouveau, dans une perspective non pas d'un enseignement désintéressé, ouais. L'objectif c'est de conduire le peuple chrétien vers le salut.
C'est de créer une élite aussi.
Oui, et c'est une manière de réformer les cadres, c'est tout l'objectif de la cour palatine, mais qui existait déjà à l'époque mérovingienne, de former les cadres qui vont être utilisés pour faire fonctionner les institutions.
Alors, vous le dites, voilà, il est très intéressé par l'éducation. En même temps, on a souvent dit que Charlemagne était une espèce d'illettré.
Ce n'est pas vrai. Il d'après Eginhard, et semble-t-il c'est bien le cas, il ne savait pas bien écrire, mais il savait lire, il parlait le latin, il était capable en tous les cas de suivre des débats entre théologiens. Il intervient sans être un théologien lui-même dans les débats et, semble-t-il, il connaissait le grec.
Et Eginhard aussi, là encore, le décrit dans son lit avec des tablettes de cire à l'époque où il s'entraîne à écrire.
Oui, vrai. Tout à fait. Et semble-t-il, d'après, mais c'est tout à fait plausible, ouais. Il a appris trop tard l'art d'écrire et il ne l'a jamais véritablement maîtrisé. Mais il savait lire. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Un ami des arts et de la diffusion des arts, Charlemagne.
Voilà, de la même manière, tout est lié. L'ambition politique, accompagnée d'une révolution culturelle au service de l'Église, puisqu'il est à la fois le chef de l'État, mais aussi de l'Église. Mmh. Il y a confusion dans l'esprit des contemporains. Et ça se traduit évidemment par une renaissance de l'écriture, une renaissance des arts écrits, mais aussi de l'architecture, ce qui donnera à long terme, par exemple, l'Armosan, qui sera évoqué à l'Archéoforum également au mois de novembre.
Charlemagne est un monarque qui unifie ses territoires. Les spécialistes là semblent être d'accord, mais ce sont les raisons qui divergent. Est-ce que ce sont une politique d'unification? Pourquoi?
Non, il ne faut jamais oublier que c'est un franc et il y a une culture de la guerre, évidemment. Donc ce sont des conquérants. Et les conquêtes sont indispensables pour pouvoir récompenser aussi les fidèles. C'est ce qui va aussi poser problème à Louis le Pieux, qui n'est pas un conquérant, et donc il n'y a pas de terre, il n'y a pas de butin à distribuer, ce qui pose un problème en termes de fidélité, puisque une bonne partie des institutions sont basées sur la notion de fidélité, donc de rapport d'homme à homme.
Ce sera d'ailleurs quoi, le grand échec de Charlemagne, c'est sa succession au fond qu'il ne parvient pas à organiser?
Non, parce qu'il y a été victime finalement d'une mentalité qui est présente et à laquelle il ne peut pas échapper. Lui-même, en 806, quand ses trois principaux fils vivent toujours, il partage l'Empire en trois. Le hasard fait que Louis le Pieux est le seul à survivre. Et quand Louis le Pieux meurt, ce sera pareil. Ouais. Donc il y a une présence, une mentalité qui est très importante.
Assez de Saint-Augustin. Préparez un capitulaire pour les abbés et pour les évêques. Mais pas en latin classique. En latin de tous les jours que tout le monde comprenne. Demandez qu'ils ouvrent des écoles partout. Veillez ce qu'il y ait des écoles dans les nouvelles zones défrichées de Saxe. Les fils de grandes familles doivent avoir autant de savoir qu'un sarrasin ou un grec. Obligez les comtes à apprendre à leurs enfants à lire. Les moines gagnent leur vie en copiant des ouvrages. Je veux qu'ils ouvrent les bibliothèques à tout le monde. Que tout le monde puisse voir des livres. Je veux beaucoup de livres, des livres partout. Désormais, l'enseignement se fera en langue romane ou tudesque selon les régions. Mais surtout pas de latin d'église. Si. Sinon, les enfants doués des campagnes n'auront pas accès aux écoles.
Un jour dans l'histoire.
Toujours ce documentaire d'Arte, au temps de Charlemagne. Alors la grande, enfin l'une des grandes idées, Julien Maquet, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est un Charlemagne père de l'Europe. Ça, c'est une vieille idée du 19e siècle, justement.
Voilà, on est dans un processus historique habituel. On reprend une grande figure que l'on réutilise au service de fins, c'est au service d'une cause, ouais. Finalement. Ici, la construction européenne, mais... La notion d'Europe existe à l'époque de Charlemagne, mais par ses conquêtes, il n'a jamais envisagé de créer ce qui deviendra l'Europe. Comme l'État belge, on faisait de Charlemagne un ancêtre des rois actuels et un des grands souverains de Belgique. Alors que la Belgique, à l'époque de Charlemagne, évidemment, n'existait pas, même pas dans l'esprit.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de danger, je dirais, d'interpréter l'histoire est toujours, enfin, est encore... encore lieu. Je veux dire, dans 100 ans, est-ce qu'on pourra dire qu'aujourd'hui, nos hommes politiques, par exemple, nos observateurs, ont interprété notre histoire ?
Oui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est un souci évident de pouvoir justifier et légitimer les actes que l'on pose en se référant, de préférence effectivement, à de grands noms, en occultant aussi certains aspects qui sont parfois, je vous dis, Charlemagne est un conquérant, la conquête de la Saxe, ce n'est pas nécessairement ce plus grand titre de gloire, l'écartement de ses neveux de la succession. Voilà, donc l'image de Charlemagne n'est pas toute rose, loin de là.
Alors, autre idée véhiculée, on l'a déjà un peu évoquée dans l'extrait du docu qu'on vient d'entendre, c'est un trait d'union entre les mondes latins et germaniques. Or, à l'époque, ça n'a pas tellement... Ce sont des notions qui sont floues.
Tout à fait, parce qu'il n'y a pas très longtemps que le latin, même si c'était un latin abatardi, dans les zones romanisées, évidemment, ne sont pas... On commençait à avoir des langues qui n'étaient plus comprises lorsqu'on parlait latin. Ce sont des langues qui s'individualisent. Mais Charlemagne parlait plutôt une langue germanique qu'une langue romane.
Alors, témoignage direct, je dirais, et très concret, voilà, de cette légende autour de Charlemagne et de cette réécriture de l'histoire. C'est à Liège même qu'on peut la trouver, sur le boulevard d'Avrois. Il y a cette statue du monarque qui a une histoire bien particulière, là aussi.
Oui, cette statue avait été offerte en réalité par le sculpteur Louis Jehotte, offerte à la ville, mais la ville n'en voulait pas véritablement. Il avait, lui, le projet de la mettre sur la place Saint-Lambert, comme on avait voulu mettre la statue de Napoléon, ce projet qui n'a jamais abouti non plus. Et puis finalement, on l'a mise provisoirement là où elle est, avec la galerie des ancêtres sur le piédestal. Elle a même envisagé, il y a un moment où elle devait aller devant la gare des Guillemins, qui devait porter le nom de gare Charlemagne, et puis elle est toujours là où elle est. Et à Liège, on dit, puisqu'il tend la main, qu'il sent s'il va pleuvoir ou pas.
Avec cette inscription, je crois qu'elle a disparu, non, Carolus Magnus, Magnus Bello Major Pace, ce qui
voilà,
veut dire...
Grand dans la guerre, plus grand dans la paix.
Effectivement, elle n'a pas... cette inscription a disparu.
Elle a disparu, il ne reste plus que le nom de Charlemagne, mais voilà, ce sont des indices qui doivent interpeller évidemment l'historien, qui sont intéressants de voir les choses qui demeurent, qui disparaissent. L'emplacement aussi des choses, tout ça n'est pas innocent.
Mais et cette plaque, elle a disparu pour des raisons par hasard ou il y a vraiment une intention derrière ?
Non, je ne pense pas ici qu'il y ait une véritable intention. La statue, elle vient d'être rénovée, elle a été rénovée à d'autres reprises. Et je ne pense pas qu'elle ait disparu volontairement, puisque c'est un texte que l'on trouve par ailleurs.
Alors, on a évoqué tout à l'heure, enfin au tout début, la mort de Charlemagne. Là, on est sûr, c'est bien en 814,
oui,
Aix-la-Chapelle.
Ça oui. Les sources concordent. Il est mort le 28 janvier, au petit matin 814. Ça, c'est certain.
Avec une explication des causes de sa mort.
Pour l'époque, il est mort très âgé, 72 ans au 9e siècle. Il suffit de voir l'ensemble des enfants de Charlemagne, le nombre qui a survécu, c'est pas énorme, puisqu'il ne restait que Louis le Pieux. Donc les conditions de vie, même à la cour, étaient difficiles. Donc manifestement, il était doté d'une stature exceptionnelle, et je pense qu'il est mort tout simplement de vieillesse. Il a énormément voyagé dans des conditions pas simples. C'est quelqu'un qui a combattu, mais il avait manifestement une santé robuste.
Alors, avec toutes ces observations que l'on peut faire, est-ce qu'on s'attend à ce que les manuels scolaires changent leur fusil d'épaule, si j'ose dire ?
Voilà, l'image que nous avons de Charlemagne est liée étroitement au manuel scolaire. Essayez justement à la fois de montrer que cette image vient bien de là, essayez de décoder aussi le message qui est inscrit dans ces manuels. Mais le propos des manuels à l'heure actuelle est de replacer finalement Charlemagne dans son contexte. Et on n'étudie plus une personnalité, mais la période dans son ensemble et dans toute sa dimension politique, économique, sociale, culturelle. Donc il y a une vision plus large et moins, et donc aussi qu'il y a une dimension prosélyte moins marquée.
Est-ce que les historiens font facilement, mea culpa, mais enfin reviennent assez facilement sur leurs observations, leurs commentaires, leurs analyses ?
L'esprit scientifique veut effectivement qu'il faille faire comme cela. À partir du moment où vous avez des éléments nouveaux, il faut pouvoir remettre en cause la vision que vous avez acquise jusqu'à ce moment-là. Le problème en histoire, et surtout pour cette période, c'est le manque de sources. Donc, il y a une plus grande place qui est laissée à l'interprétation, ce qui rend évidemment le métier encore d'autant plus délicat.
L'histoire est véritablement vivante, c'est vraiment une science vivante.
Tout à fait, c'est une science vivante qui évolue, les points de vue évoluent, les perspectives évoluent, donc c'est une quête sans fin.
Charlemagne avec Julien Maquet, directeur de l'Archéoforum. C'est une émission qu'on vous a proposée une première fois le 25 juin 2014. Restez avec nous juste après les infos de 14h. On se retrouve avec notre série consacrée aux bonnes manières, série réalisée par Dominique Vastels. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 et au cours de ces vacances d'hiver, on va retrouver régulièrement la série Dominique Vastels consacrée aux bonnes manières. Les bonnes manières, un feuilleton en 6 épisodes. Aujourd'hui, la politesse ouverte au monde.
Fais pas ci, fais pas ça. Ah, dada, trou de cadet, à cheval sur mon bidon. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, dada, trou de cadet, à cheval sur mon bidon. Fais de mule, fais de voiture.
Trop de formules de politesse ? Des fois, même entre deux étages dans un ascenseur, tu peux en faire 9 des formules de politesse, tu sais. Tu rentres, bonjour, pardon, excusez-moi, pardon, quel étage ? 2e, merci, ça part un peu, oups, pardon. T'arrives, les portes s'ouvrent, excusez-moi, je vais sortir, c'est à moi de sortir. Bah oui, je vais vous laisser passer, bah merci, attention, pardon, excusez-moi, bonne journée, bah vous aussi, merci, au revoir, à bientôt, merci, pardon.
Quel serait le monde sans un bonjour ou un merci ? Quelles sont les origines de cette petite locution indispensable qui rend la vie en société beaucoup plus agréable ? En 6 leçons ludiques et pleines d'humour, nous allons découvrir tout au long de ces vacances d'hiver les règles du savoir-vivre à travers les âges, en compagnie de Frédéric Rouvillois, auteur de l'histoire de la politesse chez Flammarion, Franz Berlière, professeur émérite d'histoire de l'humanisme à l'ULG, de Patricia Deprel, auteur de Passeport pour le monde aux éditions Soliflore, mais aussi avec les humoristes, le théâtre, la chanson et le cinéma.
La politesse, contrairement à la loi, eh bien ça ne s'impose pas par des décrets. Ça ne se décrète pas, la politesse, ça se pratique.
Frédéric Rouvillois.
Les bonnes manières, les manières d'abord. Les manières, c'est les façons d'être et d'agir dans les relations humaines.
Franz Berlière.
Vous savez, la politesse, c'est pas faire des manières, hein. C'est simplement se comprendre, se permettre de vivre en société.
Patricia Deprel.
La diffusion d'un livre d'Erasme, à l'époque, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'Europe occidentale. C'est jusqu'en Espagne, jusqu'en Angleterre, au moins jusqu'en Pologne, jusqu'aux Pays-Bas, bien sûr, jusqu'en Italie. Et ça gagne le monde, par les colons. Ça gagne l'Amérique avec les bateaux espagnols. Aujourd'hui, c'est un texte qui, dans bien des cas, reste valables. Les convenances, je disais, ne varient pas, surtout si elles reposent sur les idées que j'ai énoncées, ne varient pas à ce point. C'est un texte qui aujourd'hui est encore traduit dans toutes les langues. Le problème est de savoir s'il est lu autrement que par des ou par d'autres personnes que les spécialistes d'Erasme, mais il a été publié il y a quelques années chez Arléa dans une collection de poche, et c'est un livre qui a eu énormément de succès. Alors, est-ce que le succès est dû au souci des lecteurs de s'initier au savoir-vivre? Je vous laisse juger.
Erasmus est le nom donné au programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités et les grandes écoles européennes.
Es la génération Erasmus.
Ce programme existe depuis 1987 et concerne 31 pays d'Europe. C'est, comme vous le savez, le plus connu, mais il y a aussi le programme Socrate, Leonardo, le Crépuc avec le Québec, l'Arfitech avec l'Argentine, Globus, Averroès, Asia Exchange. Bref, nous résumerons ça avec Erasmus.
La question qui peut se poser, pour terminer, c'est effectivement celle de, je dirais, la mondialisation de la politesse. La mondialisation de la politesse, on connaît effectivement, on a accès de plus en plus facilement, même si c'était déjà plus ou moins le cas autrefois, hein, mais on a accès de plus en plus facilement à des informations sur la manière dont on se comporte ailleurs. Il suffit de quelques clics pour savoir comment on mange en Thaïlande ou en Italie ou en Afrique noire. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et donc, on peut avoir connaissance des règles, des codes particuliers de civilisations différentes. Alors, je pense qu'effectivement, il est très, très utile et très intéressant d'ailleurs de connaître ces codes, utile de les connaître lorsqu'on va éventuellement voyager, lorsqu'on va à l'étranger, auquel cas il faudra effectivement essayer de les respecter. Utile également parce que ça permet de mettre à la fois de relativiser ce que nous pratiquons, mais également de prendre conscience de leur intérêt et de leur spécificité. Hein. C'est aussi l'un des rôles, à mon avis, de cette connaissance. Est-ce que maintenant il faut espérer une sorte de mondialisation de la politesse qui consisterait à, grosso modo, à mettre tout ensemble, à tout mélanger et à faire une sorte de synthèse de ce savoir-vivre mondial. À mon avis, ce serait clairement la pire des choses. La pire des choses, si vous voulez, la politesse, elle ne naît pas complètement au hasard. On a beaucoup parlé effectivement des auteurs des manuels de savoir-vivre, mais la politesse, elle apparaît d'abord en tant que pratique sociale. Hein, ce sont d'abord les groupes sociaux, ce sont d'abord les personnes elles-mêmes qui vont au fond suggérer, pratiquer certaines choses qui vont ensuite devenir en quelque sorte des règles ou des coutumes de savoir-vivre. Donc, chaque savoir-vivre, il est lié quand même à un espace particulier, à une population particulière, à une culture particulière, à des traditions, à une histoire, à une langue, etc. etc. Donc il y a une vraie singularité, une vraie spécificité, au fond, des règles de politesse dans chaque pays, et même au-delà, éventuellement dans chaque région, etc. Et vouloir tout uniformiser serait, à mon sens, tout à fait déplorable. Notamment parce que, si vous voulez mondialiser la politesse, ce serait forcément, au fond, se contenter du plus petit dénominateur commun. Autrement dit, on aurait une politesse a minima. Une politesse a minima qui consisterait grosso modo à dire bonjour quand on croise quelqu'un dans la rue, merci quand on en obtient quelque chose, etc. etc. Enfin, dernier point, cette mondialisation de la politesse, qui n'est pas souhaitable, à aucun point de vue d'ailleurs, cette mondialisation, elle, à mon sens, elle ne se rend pas possible non plus. Parce que la politesse, contrairement à la loi, ça ne s'impose pas par des décrets, ça ne se décrète pas, la politesse, ça se pratique.
Les Français mettent beaucoup d'importance, beaucoup de valeur sur la culture, qui est fruit, hein, qui sont des fruits de l'histoire, longue histoire. Alors chez les Japonais, c'est pareil. Quand même, la tradition, c'est quelque chose de très important chez les Japonais. Et donc, on essaie toujours de garder cette tradition et influencer vers l'évolution sociale et économique. Ça, je pense que c'est le point commun. Donc, les Japonais se sentent très bien. C'est cette notion de valeur des Français sur la culture. Alors, ceux qui sont difficiles quand les Japonais travaillent avec les Français, c'est la notion de temps, notamment la notion de calendrier. Et, c'est-à-dire, surtout le délai de travail.
C'est à nous, d'abord, à comprendre les codes des autres. Et on ne pourra jamais, enfin, il me semble, imposer nos codes à des Chinois. Bien que maintenant, je vois que dans les milieux d'affaires, le Chinois aussi serre la main dans les affaires, puisque ça, c'est un code que lui a repris chez nous. Par contre, au Japon, on se salue encore toujours en s'inclinant le buste très respectueusement. Je crois que le tout, c'est de connaître ces codes. Par exemple, vous savez, je serais arrivée ici ce matin, je vous aurais tiré la langue. Ça vous aurait paru un peu surprenant. Pourtant, si j'étais tibétaine, ce serait ma façon de vous saluer, de vous dire bonjour. Mais de là l'importance, j'insiste, l'importance que les codes que nous employons soient compris par les autres. Et donc, qu'on ne croit pas que c'est imposé comme ça. Vous savez, si je vous donne une claque, en signe de bonjour, vous allez mal le prendre, alors que c'est peut-être un code dans des tribus que nous ne connaissons pas. Donc, tâchons de comprendre les codes des autres, mais d'abord de comprendre les nôtres, que les enfants comprennent que serrer la main, dire merci, ces codes sont d'application et permettent de vivre en société. Vous savez, je me répète, mais tirer la langue pour vous dire bonjour, alors que ça part d'un bon sentiment chez moi et que vous allez mal le prendre, ça ne va pas créer beaucoup de civilité ni de sociabilité. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas seulement comme ça se dire « oh là là ». Vous savez, la politesse, ce n'est pas faire des manières. Hein. C'est simplement se comprendre, se permettre de vivre en société. Quand vous écrasez le pied de quelqu'un en passant, vous lui faites mal, donc c'est normal de s'excuser, de remarquer que la personne vous lui avez fait mal. Vous savez, maintenant, il y a énormément de vigiles dans certains grands magasins. Le vigile n'est pas là pour se faire écraser les pieds. Hein. Il existe aussi, on peut aussi lui dire bonjour. Hein. Donc voilà, moi, je crois que c'est ça, vraiment, la politesse, ces petits gestes que vraiment, je crois qu'ils s'y sont inculqués. Vous savez, dans les classes, maintenant, les enfants ne sont plus censés se lever quand rentre le maître ou la maîtresse de classe. Bon, je veux bien. Mais alors, après, il faut faire suivre à certains des cours qui sont. Certaines personnes sont arrivées au bout de leurs études, leurs universités, tout. Et ils ont certains codes élémentaires de politesse qui leur manquent. Ils arrivent dans des banques importantes, ne se lèvent même pas pour recevoir leurs clients. Après ça, il faut aller leur donner des cours. Non, mais ça ne ressemble plus à rien. Alors que ce sont des règles importantes qui, petits, s'intègrent si facilement et qui deviennent des automatismes. Et je trouve que c'est ça qui est facile. Vous savez, faire des manières, c'est être vraiment emprunté. Hein. Donc, être emprunté, c'est toujours ce qu'il y a de pire. La politesse, la courtoisie, la sociabilité, c'est être à l'aise partout. Aussi bien avec votre fermier, avec les boueurs, avec le roi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on le dit très bien, si vous sentez mal à l'aise avec le roi, c'est que le roi se comporte mal.
La gentillesse ou politesse pour les Thaïlandais, où il faut respecter entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de contact physique facilement comme ici en France. Si toi, tu es une fille et par exemple lui, les femmes, première fois, c'est très rare qu'on peut contact physique comme ça. Voilà, c'est une chose de notre culture. Entre le sexe homme et femme. L'âge, pour les plus âgés, on doit respecter, on n'a pas le droit de, par exemple, de toucher, voilà, surtout la tête, c'est le plus respect. Voilà. Le contraire, le pied. On n'utilise pas nos pieds pour indiquer des choses comme ça, on ne fait pas, c'est mal vu.
En France et en Belgique, si vous recevez un cadeau, vous êtes censé l'ouvrir devant la personne et de vous extasier quoi qu'on vous offre et quoi que vous ayez en tête. Mais dans la plupart des pays à travers le monde, on n'ouvre pas le cadeau devant la personne, justement pour ne pas la mettre mal à l'aise au cas où le cadeau ne plairait pas. Donc le cadeau ne s'ouvre pas devant les personnes, que ce soit en Russie, au Japon, en Chine, vous n'ouvrez pas, vous attendez bien que vos invités soient partis pour ouvrir les cadeaux et éventuellement le refiler à quelqu'un d'autre la prochaine fois. Concernant les fleurs, parce que ça c'est tout un paragraphe aussi, beaucoup de gens croient bien faire en arrivant quand ils sont invités à un dîner avec un énorme bouquet de fleurs. Sachez que ça met très dans l'embarras très fort la maîtresse de maison, qui à ce moment-là doit déjà accueillir ses invités, les présenter les uns aux autres, trouver, si vous arrivez avec un bouquet de fleurs, trouver le vase adéquat, à ce moment-là, n'est pas la chose la plus opportune. Et donc, il vaut nettement mieux envoyer les fleurs avant d'être reçues, ou les envoyer le lendemain pour remercier. Bon, moi, je préfère les recevoir avant, parce qu'au moins, ça garnit mon salon. En Allemagne, ôtez toujours le papier du bouquet de fleurs. Parce que ça, c'est très mal vu. Vous arrivez et vous devez ôter vous-même le papier. Vous offrez les fleurs sans le papier. Vous les offrirez toujours en nombre impair. Très important, parce que sinon, c'est comme si vous aviez pris une douzaine de fleurs, une botte, sans faire attention à ce que vous alliez offrir. Alors, en Asie, quand vous recevez un cadeau ou une carte de visite, n'importe quoi, quand on vous tend un objet, vous êtes toujours prié de le prendre des deux mains. Parce que c'est une marque de respect de l'accepter des deux mains. La prendre d'une main, c'est comme un geste de déni, comme si on n'y prêtait pas attention. Donc ça, c'est très, très important. Surtout les cartes de visite en Chine, par exemple, sont une prolongation de la personne. Donc, quand ils vous tendent leur carte de visite, qui est d'abord très, très complète, ils figurent d'ailleurs parfois même leurs photos, ce que je trouve pas mal, prenez-la toujours avec les deux mains et lisez-la devant la personne en vous exclamant devant ses titres. Parce que vous donnant sa carte de visite, c'est comme s'il se confiait à vous. Donc, ne la mettez pas distraitement comme ça en poche. Vous y prêtez grandement attention et vous la conservez précieusement. Chez nous, la carte de visite est moins complète d'abord. Et puis là, c'est vraiment une carte qui est censée vous rappeler la personne, mais elle n'a pas du tout le même prestige.
Première chose, c'est que c'est la légèreté de promesses orales chez les Français. Parce que promesses, engagement, c'est l'écrit. L'importance, les Japonais ne comprennent pas cette importance d'engagement en écrit. Presque tous les Japonais que je connais, et moi-même au départ, étaient étonnés d'être coupés mon parole dans la discussion, dans la réunion, par exemple, où il y a plusieurs personnes. Alors, pour les Japonais, c'est manque de respect des autres. C'est quelque chose qui amène l'inefficacité de la réunion. Alors, c'est ce que j'ai appris après, c'est qu'à l'école en France, les gens sont éduqués comme s'il faut vraiment dialoguer de manière spontanée les uns et les autres. Ça, quelque chose que les Japonais ne sont pas pratiqués, ne sont pas éduqués.
Vous savez, il y a une phrase d'un assez célèbre d'un ecclésiastique du XIXe siècle, le père Lacordaire, qui disait grosso modo que entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. La liberté opprime et la règle libère. Ben, il en va un peu de même pour la politesse, en un sens. C'est-à-dire que lorsque vous êtes riche, puissant, respecté, etc., vous n'avez pas besoin fondamentalement en plus de la politesse. Vous savez de toute façon que, en toute hypothèse, les gens vous respecteront pour votre richesse, pour votre puissance, etc. La politesse, c'est en plus. Et de toute façon, vous l'avez. Vous savez très bien que les gens vont au moins faire semblant d'être polis et déférents avec vous. Lorsqu'au contraire, vous n'avez pas ces éléments-là, lorsque vous n'êtes pas puissant, riche, célèbre, etc., ben, la politesse, c'est au fond ce qui va vous permettre, ce qui va rendre votre vie un peu moins pénible, un peu moins dure, un peu moins compliquée. C'est ce qui va amener les autres à vous manifester des signes de respect auxquels votre statut social ou économique, etc., ne vous donne pas accès de manière mécanique. Donc, si vous voulez, je pense que ce n'est pas du tout être démagogue, au contraire, que de dire que la politesse et le savoir-vivre, c'est surtout très utile pour les petits, pour les pauvres, pour les faibles. Parce que, voilà, ça permet de rendre leur vie moins difficile et moins compliquée. Alors que, de toute façon, les riches auront finalement des marques de ce respect dans lequel se résume la politesse.
Podcast La Première. La Première.